Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. Je suis aujourd'hui l'invité d'Antoine Decaune et j'ai beau être ce que l'on appelle un youtubeur, j'aime beaucoup, beaucoup la radio, donc c'est un vrai plaisir d'être présent aujourd'hui.
Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Nous sommes vendredi et le vendredi désormais c'est ravioli bien sûr, mais c'est surtout un popopop entièrement consacré au podcast et rebaptisé pour la circonstance popopodcast, ce qui j'en suis certain fera la joie des orthophonistes. Je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler ce que c'est qu'un podcast devenu en un peu plus d'une dizaine d'années un phénomène massif. En gros, ça fait de vous tous des directeurs de programme puisque ça vous laisse le choix d'écouter qui vous voulez, ce que vous voulez, quand vous voulez et où vous voulez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un peu d'internet et d'une plateforme pour retrouver ce que vous avez envie d'écouter. Et là, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Du plus pointu, une série sur l'élevage du marcassin dans le Bac-Quercy, au plus généraliste, l'actu au sens large, le féminisme, les enquêtes policières, les luttes LGBT ou l'inévitable développement personnel. Tout ça en se baladant, et on se balade beaucoup dans l'Hexagone, puisque en 2020, 113,6 millions de podcasts ont été écoutés et ou téléchargés selon Médiamétrie. D'ailleurs, on ne parle pas de podcasting, mais de balado-diffusion. C'est plus joli, mais bon, tout le monde dit podcast. Voilà, c'est donc le vendredi que Popopop deviendra Popopodcast pour inciter à ouvrir encore plus grand vos oreilles. Et on attaque avec l'une des têtes de gondole de l'univers podcast, Hugo Décrypte.
France Inter, Popopop, Antoine Decaune.
Bonjour Hugo Décrypte.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce studio.
Merci beaucoup.
Hugo, vous vous appelez en réalité Hugo Travers.
Ouais, exactement. Mon père est anglais, il insiste sur le S à prononcer. Après, moi, j'accepte les deux.
Votre papa est anglais, ce qui n'est pas grave. Et vous décryptez quotidiennement l'actu dans votre podcast qui s'appelle Les Actus du Jour. Ce podcast est une adaptation de votre chaîne YouTube qui porte le même nom et qui rassemble plus d'un million de personnes. Bravo.
Merci beaucoup.
Enfin, je vous en prie. Vous vous appelez donc Hugo et vous décryptez. Mais où êtes-vous allé chercher ce nom Hugo Décrypte?
Alors c'est toujours la recherche d'un nom pour quelques projets, d'ailleurs n'importe quel projet, c'est toujours pas évident. Et là sur YouTube, parce que de base je me suis quand même lancé sur YouTube, en général on met quand même son prénom sur le nom de sa chaîne. Et donc on avait à l'époque Norman fait des vidéos, on avait d'autres YouTubeurs comme ça. Et donc moi je me suis dit il faut Hugo et peut-être un verbe qui explique un peu ce que je faisais. Et donc on est tombé sur Décrypte, qui est aujourd'hui devenu un mot très très banal que tous les médias et tout le monde utilisent. À l'époque ça commençait un peu à être utilisé. C'est soit Hugo Décrypte, soit Hugo Analyse, soit Hugo je sais pas. Plein de façons différentes de le dire. On a gardé Hugo Décrypte.
Eh bien, merci d'avoir décrypté ce mystère. Rien à voir donc avec Hugo Délire, cette émission de télévision diffusée dans les années 80, soit de la préhistoire pour vous qui êtes né en 97. Pareil pour Hugo Boss.
Non, effectivement, ça aurait pu, mais ça aurait été bizarre.
Oui, ça remonte à l'époque des nazis en plus. Alors, merci de nous accompagner dans ce premier numéro, Hugo, et de ne pas nous juger pour ces références d'un autre temps. Dans Popop Podcast, nous décrypterons, nous aussi, l'univers des podcasts chaque vendredi avec des invités comme vous. Nous essaierons également de faire le tri à travers la multitude de podcasts proposés pour vous livrer les meilleures recommandations. Et comme on ne se refait pas, nous irons fouiller dans les méandres de cet univers pour trouver aussi les pires.
Il y en a.
Mais au fait, Hugo, comme nous sommes aussi suivis par un public qui est, contrairement à vous, je pense, senior, voire senior plus, c'est quoi un podcast?
Un podcast, alors c'est intéressant parce que on parle peut-être des personnes âgées qui auraient du mal à comprendre ce que c'est.
On est parlé plus doucement déjà.
Mais effectivement, mais les jeunes aussi ont parfois du mal à comprendre ce que c'est un podcast. Mmh. Parce que sur YouTube, un podcast, pendant longtemps, c'était le nom qu'on donnait à des vidéos tournées humoristiques sur des sujets. Quand on avait des gros YouTubeurs, donc des Norman ou des Cyprien, qui parlaient d'un sujet, disons, de l'école, et on faisait une sorte de petit sketch en quelques minutes, en vidéo, on appelait ça un podcast. Mmh. Et du coup, quand je suis arrivé là avec ce podcast il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai eu des retours de jeunes qui me disaient mais c'est quoi un podcast, parce que pour moi c'est de la vidéo. Donc non, un podcast c'est bien de l'audio et c'est un format audio. D'ailleurs parfois il y a des déclinaisons d'émissions comme celle-ci, je sais, qui est en podcast, et ça s'écoute quand on veut, où on veut.
Mais vous pensez par exemple que mon exemple de série sur l'élevage du marcassin dans le Bac-Quercy était un bon exemple?
Ça peut. Mais il peut y avoir de tout, je suis sûr qu'il y a des niches sur tous les sujets qui peuvent se faire.
Bon Hugo, nous allons décrypter votre podcast dans la suite de ce premier numéro de Popop Podcast avec mon binôme Charline Rowe qui nous rejoindra juste après un morceau de Céleste qui s'appelle Tonight Tonight et qu'on écoute tout de suite.
Tonight, tonight, you're the place I go to. Tonight.
Tonight, Tonight, signé Céleste Céleste, et c'est le premier morceau de ce premier numéro de Pop Pop Podcast, et nous sommes toujours en compagnie d'Hugo Décrypte. Hugo, je vous présente Charline Roux, une experte en podcast, et elle va je me pèse mes mots. Et elle va nous le prouver dans un instant. Hugo, vos podcasts, les actus du jour, sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming, et dans ceci, vous décryptez donc l'actu chaque jour, du lundi au vendredi. Ça va de l'Afghanistan à Koh-Lanta, en passant par Lionel Messi.
Allez, on passe à la quatrième actu de la semaine, et on va parler de l'arrivée du footballeur argentin Lionel Messi au PSG. Et en l'occurrence, même si jamais le football ne vous intéresse pas forcément, vous allez le voir, il y a des éléments assez intéressants sur d'autres aspects.
Alors, un journal en moins de 10 minutes, avec un sommaire ouvert. Quelle est votre ligne éditoriale et comment choisissez-vous vos sujets, Hugo ?
Alors, la ligne éditoriale ou la mission, disons, c'est clairement de rendre l'actualité accessible. C'est ce qui a fait que j'ai lancé d'abord cette chaîne YouTube au départ pour essayer de s'adresser notamment aux jeunes. Et on est parti du constat qu'il y avait une sorte de décalage croissant entre beaucoup de médias et cette génération qui passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et peut-être de moins en moins de temps sur des médias plus traditionnels et qui pour autant doivent s'informer parce que c'est important et c'est souvent aussi des sujets qui les intéressent. Donc il y a cette volonté de rendre l'actualité accessible, claire. Et sur les sujets qu'on va traiter, on va traiter à la fois des sujets qui sont importants, même s'ils peuvent paraître un peu lointains. C'est le cas de l'Afghanistan, par exemple, qui est un sujet majeur. Au premier abord, on peut se dire, bon, pour moi, un jeune qui suis au lycée ou autre, quel est l'intérêt ? Alors qu'en fait, il y a des choses intéressantes à aller voir. Mais aussi, parfois, aller traiter des sujets plus dans le domaine du divertissement ou plus léger, même l'arrivée de Lionel Messi, et essayer derrière de comprendre concrètement les différents ressorts, le côté soft power avec le Qatar derrière, les enjeux économiques. Et c'est cette volonté-là qu'on a au quotidien. Le tout en moins de 10 minutes, qui est un peu le défi qu'on essaie d'avoir sur ce format-là, quitte à creuser après sur d'autres contenus, vidéos ou autres.
Mais vous avez officié en radio, alors pourquoi cette fois avoir choisi le podcast pour informer ? Qu'est-ce que ça vous permet de différent ?
Le podcast, je pense que c'est déjà une grande liberté sur le contenu, sur le fond, sur la forme, sur tout ce qu'on veut faire. C'est-à-dire que même avant d'ailleurs ce podcast des Actus du Jour, j'avais un autre podcast il y a 2-3 ans que j'avais fait avec mon ex-copine. Et en fait, le principe du podcast était très simple. On se posait tous les deux et 5 minutes avant de lancer l'enregistrement, on se disait, OK, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Et on ne préparait rien. Et on se disait, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement ? On est allé voir tel film qui était intéressant. Il y a tel sujet dans le domaine de YouTube qui est intéressant à analyser, telle ou telle chose. Et on rassemblait tout ça. Et ça donnait la forme d'une discussion très libre, pas préparé, mais qui avait, je pense, pour pas mal de jeunes qui suivaient ce podcast à l'époque, un côté, c'est un grand frère ou une grande sœur qui vont me parler de pas mal de choses, ils vont me parler de leurs études, ils vont me parler de recommandations en culture qui les intéressent, des coulisses de YouTube éventuellement, et ce ton très libre, typiquement, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus dur à trouver dans des formats plus classiques, mais là, en podcast, on a les moyens de le faire.
Eh bien, cette ex-copine, elle est là avec nous aujourd'hui.
Bonjour,
Hugo. Non, je... Bien sûr, c'est un podcast sérieux avec des infos qui le sont tout autant. Je sais que vous avez reçu beaucoup de messages de jeunes vous demandant de vérifier telle ou telle info pour faire le tri entre les fake news et les vraies news. Est-ce que c'est ça aussi le point de départ du podcast ?
C'est que en fait, c'est la conséquence directe. Je pense que la dimension de ces fausses informations qui sont véhiculées, c'est aussi la conséquence de ce décalage parfois entre certains médias qui n'arrivent pas à parler à cette génération-là. Et du coup, il y a des rumeurs, il y a des choses qui viennent combler le vide, disons, et faire de la place sur ces réseaux sociaux-là. Donc c'est effectivement une vigilance que nous, on a, où tous les jours, on va recevoir des messages sur Instagram ou autre, de jeunes qui disent, mais là, il y a une rumeur de... Typiquement, on a eu ça il y a quelques jours, de Covid-22, d'une nouvelle pandémie de Covid-22. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voilà, c'est une hypothèse qui est complètement tronquée et déformée qui a mené à cette rumeur-là. Et donc, on a eu ce travail de vérification d'informations à faire pour essayer de ressortir un peu et comprendre concrètement ce que c'était. Je précise d'ailleurs que c'est tant le podcast des Actus du Jour qu'on a lancé, mais que nos contenus en général, c'est des contenus qui... Moi, je le vois, ma grand-mère suit les contenus au quotidien, mais même je croise de plus en plus de personnes beaucoup plus âgées qui suivent le contenu, parce qu'au final, on parle d'actualité, on n'est pas centré sur des sujets des jeunes, et donc ça peut intéresser un peu tout le monde.
Hugo, pourquoi est-ce que je devrais vous faire plus confiance à vous qu'à David Pujadas ?
Pas forcément faire plus confiance, je pense que c'est... Mais la question de la confiance et de la légitimité, c'est quelque chose que je me suis toujours posé, moi, sur la chaîne. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ce que j'ai fait sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux, avec cette volonté d'informer, j'avais 18 ans. Et je recevais beaucoup de messages.
Vous sortez de Sciences Po, précisons-le quand même. Je pose souvent la question de la légitimité de d'où on parle. En l'occurrence, vous êtes diplômé en journalisme.
Oui. Et alors, pas en journalisme, mais effectivement, j'ai fait 5 ans d'études à Sciences Po. Mais c'est en communication. Mais c'est une question de la légitimité qu'on me pose souvent, de dire, mais qui tais-toi pour parler de ça?
Et qui tais-toi pour parler de ça?
Exactement. Bah, qui je suis? Je suis quelqu'un de curieux qui s'intéresse à ces sujets-là et qui voit qu'il y a un intérêt à les expliquer. Et je pense même que parfois, le fait d'avoir un regard neuf sur des sujets peut apporter quelque chose. Je m'explique, quand j'ai lancé ma chaîne et que j'avais du coup 18-19 ans, une des premières vidéos que j'ai traitées, c'était sur ce qui se passait en Syrie à l'époque. Mmh. On était en 2016. Et la Syrie, moi à l'époque, quand j'ai fait cette vidéo, avant de faire la vidéo, j'y connaissais pas grand-chose. Je ne connaissais même quasiment rien. Mais le fait justement d'avoir un regard un peu neuf sur le sujet, tout en étant évidemment très vigilant aux informations qu'on donnait, etc., à bien les sourcer. Mais ça permet, ce regard neuf, de savoir aussi ce qui est clair et ce qui n'est pas clair pour quelqu'un qui découvre le sujet pour la première fois. Et donc, c'est une approche de vulgarisation et de pédagogie qui peut être assez, assez utile.
Alors, en revanche, je note une chose, vous n'avez pas du tout le ton des JT.
Armés d'un câble Wi-Fi, ils passent leur temps sur leur smartphone.
Un oubli ou une volonté?
Je sais pas, mais c'est peut-être une conséquence que je n'ai pas fait d'école de journalisme, du coup j'ai pas eu ce ton-là. Par contre, j'ai un ton qui est peut-être propre à moi ou à YouTube, je sais pas, mais j'ai souvent des abonnés qui me disent « Moi, je sais t'imiter », ils essaient de faire mon ton parce que c'est peut-être un ton un peu à part.
Sobre.
Peut-être, je sais pas. Je saurais pas le décrire, peut-être.
Mais... Le 13 août, vous postiez ce message sur Twitter, je cite « Hugo décrypte, c'est désormais 13 personnes à temps plein pour vous informer au mieux sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, sur podcast ». C'est plus une activité, c'est une mission.
c'est une mission. Enfin, c'est effectivement du coup aussi une entreprise avec des gens qui travaillent, des journalistes, des monteurs, enfin tout ce qui peut constituer normalement une rédaction. Et moi, je vais pas mentir, ça me fait bizarre aussi parce que j'ai lancé ça au début tout seul. Et au fur et à mesure, ça a grandi. Et aujourd'hui, on a une rédaction de journalistes qui ont tous la vingtaine en général et qui travaillent avec moi sur ces formats-là.
En 2017, soit la préhistoire sur YouTube, vous ne vous considériez pas forcément comme un journaliste, mais plus comme un YouTuber et un entrepreneur. Et aujourd'hui, en 2021 ?
Le terme de journaliste, je l'accepte beaucoup plus. Je pense que, je sais pas, mais c'était justement là une question de légitimité, de sentiment de je suis encore étudiant, j'ai pas fait d'école de journalisme, donc je peux pas être journaliste ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on fait du journalisme. Moi, je me considère très bien journaliste quand on fait ce travail au quotidien ou quand on fait des reportages ou autre. Il y a des journalistes dans l'équipe. On aura le statut de groupe de presse a priori à la fin de l'année. Donc, je pense qu'on est un média et on est aussi journaliste.
Hugo décrypte et l'actu du jour. Bon, ne bougez pas, Hugo. Chaque vendredi dans Pop-Up Podcast, Charline Roux, ici présente, nous livrera une sélection de podcastes à glisser entre vos deux oreilles, chastes ou non. C'est l'heure de son premier podcast.
Vous me chantez même pas un jingle, un truc. Moi, je croyais que vous alliez improviser un jingle.
Je vais vous le faire. Vous êtes prête?
Ouais. C'est donc le pire jingle de l'histoire de la radio. Ok. Et on démarre avec un polar, un Narcos hexagonal, une série en 8 épisodes, écrite et racontée par Constance Villanova, qui est journaliste passionnée de faits divers. Son titre, c'est l'affaire B52, du nom de l'enquête internationale qui a mené à l'arrestation du neveu de Pablo Escobar, rien que ça. Le 30 novembre 2016, dans un hangar près de Biarritz, une tonne de cocaïne a été saisie.
La drogue venait tout juste d'arriver de Colombie. La saisie de plus d'une tonne de cocaïne.
Un trafic de cocaïne d'une ampleur inédite.
Cette histoire, c'est Antoine qui va vous la raconter. Le 30 novembre 2016, à Bayonne, Antoine était là, planqué avec ses collègues avant de saisir cette tonne de cocaïne. Ce moment, il l'attendait depuis un an. B52, c'est l'affaire de sa vie.
T'as déjà un an que j'attendais.
Non, c'est pas vous en fait. Non, parce que Constance Villanova a rencontré et interrogé Antoine, c'est un nom d'emprunt, car c'est un grand flic des stupes qui a travaillé sur ce dossier à rebondissement. Et c'est un récit qui est aussi passionnant sur ce qu'il raconte des planques, des filatures, des collaborations internationales, de ce qu'il décrit de la vie et de l'intimité des grands policiers. Et l'affaire B52, c'est un podcast Paradiso Média. Autre salle, autre ambiance, Antoine Hugo, je vous propose 2 heures de perdu, non ça va aller je pense, mais je vous garantis que vous allez gagner en culture ciné et en drôlerie.
2 heures de perdu, mais qu'est-ce que c'est?
Eh bien ouvrez les guillemets, 2 heures de perdu, c'est une bande de tocardos avec des micros qui s'enfilent chaque semaine des films de l'enfer juste pour te faire patienter dans les transports ou te faire marrer sur ton vélo elliptique que t'assumes pas. 2 heures de perdu, c'est aussi la culture de l'à peu près et de l'information potentiellement fausse. Fin de citation, mais quand même, c'est le meilleur pitch de ce programme. En fait, c'est une bande de potes qui regardent des films et vous les racontent après à leur manière, quasiment séquence par séquence, avec toujours un mini pitch d'ouverture des plus cinéphiles.
Du gaming, des trucs dégueulasses et encore plus de trucs dégueulasses. Cette semaine, on a maté Existence et on en parle tout de suite.
Voici un très bon résumé de l'œuvre de David Cronenberg, disséqué avec verve dans la suite du programme. Et si je vous en parle, c'est parce que le gang a repris de l'activité hier en live. Et 2 heures de perdu, c'est un podcast Fréquence Moderne.
Et on termine cette sélection avec un podcast maison, loin, très loin du divertissement, mais pas moins passionnant.
Une enquête en 8 épisodes pour revenir sur un trauma mondial. Grégory Phillips raconte le 11 septembre, à travers les récits exceptionnels de 30 témoins directs, comme celui de l'homme d'affaires Bruno Dellinger, dont les bureaux se trouvait dans la tour nord du World Trade Center.
J'ai le son et l'image de l'avion très clairement en tête. Il est arrivé sur la façade où étaient les bureaux de mon entreprise. Quelques dizaines d'étages au-dessus. Mais un avion, c'est immense, donc ça se remarque. Hein. C'est tout simplement effrayant. C'est un mugissement, littéralement, qui vous arrive dessus. Et d'un seul coup... Eh ben, la vie a basculé dans un autre univers, enfin un univers de folie. Ça a frappé, violemment, et tout le monde a été stupéfait parce que devant nos yeux, l'ensemble de la façade s'est écroulé avec tout ce que vous pouvez imaginer de débris, de on ne sait pas trop quoi, qui est passé devant nos yeux sidéré.
Un témoignage à retrouver dans cette série absolument captivante. 11 septembre, l'enquête, c'est un podcast original France Inter.
Merci Charline. Parmi ces 3 prescriptions, Hugo.
2 heures de perdu, on me l'a beaucoup recommandé. Donc il faut vraiment que j'aille l'écouter, ça me tente beaucoup.
Mais est-ce que vous avez vraiment 2 heures à perdre?
Ah, je sais pas, mais dans les transports, il y a toujours du temps.
Mais vous pouvez surtout participer parce qu'ils font parfois des spéciales avec invités.
Ah, très bien, merci Charline. Hugo, vous voulez un petit jingle?
Oui, s'il vous plaît. Et c'est pour annoncer quoi alors de fait?
La fin, la fermeture de cette petite séquence.
Ah, très bien.
De ce petit journal des podcasts. Alors Hugo, on replonge dans votre univers et dans vos podcasts. Juste après un morceau pop iconique, dites-vous, c'est Eminem, Lose Yourself. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit. He choke, he's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back's to these ropes. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose his health in the music the moment you own it. Your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Give it up. His soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder. Homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows. He's grown farther from home, he's known. Goes.
change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs caged. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And there's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see this all caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. Cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. This may be the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime.
France Inter, Antoine Decaune, Pop Pop Pop
et Charline Roux. Et aujourd'hui, vous écoutez Pop Pop Podcast, la seule émission de radio. Tiens, vous arrivez à le dire ?
Moi, je dirais Pop Podcast, mais après, j'ai un léger problème d'élocution,
bah,
vous
si
le savez.
Pop, 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 c'est Pop 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 Podcast.
Oui, là, vous avez une syllabe en trop.
Oui.
Pop, pop, pop Pop Podcast.
Voilà.
Non, c'est, juste c'est un exercice en fait, on est d'accord.
Saluer hein, mon mérite.
J'ai envie d'essayer maintenant.
Voilà, allez-y, allez-y Hugo.
Pop-pop-podcast.
C'est bien pourri quand même à dire.
C'est compliqué. Okay,
d'accord.
C'est compliqué.
Bon, écoutez donc Pop-pop-podcast, l'émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Avec nous dans ce premier numéro, l'homme qui résume l'actu chaque jour en moins de 10 minutes.
La menace d'une tempête solaire qui détruirait Internet dans les années qui viennent, Netflix qui se lance dans le jeu vidéo ou encore les actualités en bref avec notamment ce gigantesque cimetière de pneus au Koweït. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes.
Hugo décrypte et son actu du jour. Alors, je parlais tout à l'heure de votre ligne éditoriale, Hugo. Alors, pour savoir ce qui pourrait être dans votre podcast, passons en revue l'actu ensemble. Par exemple, un musée de la barbe à papa qui ouvre ses portes à Paris. Vous prenez ou vous
prenez une petite actu insolite à la fin, pourquoi pas. Pour alléger un peu les actus chargées et un peu du jour du moment, ça se fait.
Kaamelott, plus gros succès au box-office depuis le début de la pandémie. On décrypte ou on laisse de côté?
Ça se met peut-être pas dans les actus du jour, mais sur d'autres contenus qu'on a sur Insta ou autre, ça peut se mettre.
Et Julien Doré qui offre un duplex surprise pour les 90 ans de sa fan Paulette ?
Je pense pas que ça se mette, non.
Et pour finir, avec plus de 81 mètres, le record du monde du plus long sandwich aux rillettes enfin battu en Mayenne cette semaine.
On l'a mis hier sur Instagram, donc ça se met quand même dans les actus. Pareil pour alléger un peu, après des sujets sérieux, ça se fait quand même.
Bon, assez parlé de sandwich aux rillettes, vous vous intéressez aux histoires originales, la preuve avec ce village de youtubeurs.
En fait, tout a commencé il y a 4 ans, lorsque Siswanto, un mécanicien d'un petit village de Java, une île d'Indonésie, a vu à la télévision un influenceur indonésien devenu riche en faisant des vidéos. Et du coup, de son côté, eh bien, il a décidé de filmer lui aussi des petites vidéos humoristiques qu'il a commencé à poster. Alors, son histoire a fait des envieux, vous vous en doutez, et du coup, il a décidé de faire une sorte de cours de YouTube à ses voisins de village. Résultat, une trentaine d'habitants du village ont créé à leur tour leur chaîne YouTube sur différents sujets et certains cumulent aujourd'hui des centaines de milliers de vues eux aussi. Puis ça a aussi donné au village une nouvelle fierté, disons, puisque c'était l'un des villages les plus pauvres de la région et donc désormais, à l'inverse, il est connu et reconnu en Indonésie, ce qui peut l'aider donc à se développer.
Quand vous vous écoutez, comme vous le faites en ce moment, Hugo, vous vous dites quoi ?
Je me dis déjà que j'ai un beau rhume sur le jour où j'ai tourné, le jour où j'ai tourné cette vidéo. C'est quand même assez impressionnant. Qu'est-ce que je me dis ? Je sais pas, c'est dur. Ça fait bizarre déjà de s'écouter, mais ça.
Est-ce que par exemple vous vous réécoutez en disant tiens, je pourrais couper ci, couper ça, redynamiser, recentrer ? Est-ce que vous avez un regard très critique sur ce que vous faites ?
Oui, quand même, et surtout alors. Il est d'autant plus critique quand on regarde mes contenus que j'ai fait il y a quelques années et que j'ai ce regard en plus, ce recul de voir comment c'était à l'époque. Mais on a une approche presque très particulière, nous, sur les vidéos qu'on fait au quotidien, parce que au sein de l'équipe, il y a certains journalistes qui passent en fait une partie de leur journée à parler à des gens qui nous suivent toute la journée. Donc des abonnés qui sont abonnés soit au podcast audio, soit à la vidéo YouTube ou à d'autres choses, pour comprendre à chaque fois ce qui plaît moins, comment est-ce qu'on peut améliorer en fait notre travail au quotidien. Et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup observé dans des univers très d'entrepreneurs, de start-up ou autre. Il faut parler aux gens, à nos potentiels clients pour comprendre ce qui plaît et s'améliorer, etc. Mais que j'essaie aussi là d'amener à ce qu'on fait au quotidien sur notre média pour juste répondre au mieux à cette problématique d'information auprès de ceux qui nous écoutent.
Donc après le village de youtubeurs, la prochaine histoire folle, ce sera quoi?
C'est une bonne question. On choisit les sujets en général le jour J, ça arrive comme ça. Ouais. Mais j'aime bien ce genre de sujet parce que c'est une histoire assez insolite d'un petit village en Indonésie où on a vu émerger comme ça des youtubeurs et donc l'histoire est assez insolite, mais elle illustre aussi pas mal de choses, soit sur la société, soit sur le rapport aux réseaux sociaux aujourd'hui. Sur tout ça, et donc des petites histoires comme ça peuvent aussi être de l'information et aussi apporter des éléments de fond, et on peut apprendre des choses avec des histoires comme ça, donc j'aime bien.
Vous êtes présenté sur les plateformes qui hébergent les podcasts comme, je cite, un journaliste nouvelle génération. Qu'est-ce que vous avez hérité de l'ancienne ?
J'espère quand même du sérieux dans le travail et les vérifications d'informations, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans un discours de il y avait rien de bien avant, il faut tout réinventer. Du coup, ce travail de journalisme en fait, c'est-à-dire que je vois même qu'au quotidien, quand on développe ce qu'on fait, que ce soit sur, encore une fois en podcast ou sur d'autres plateformes ou autres, on se confronte en réalité à des problématiques qui sont les problématiques de n'importe quel journaliste, de n'importe quel média, que ce soit sur le choix des informations, que ce soit sur la façon de le traiter, que ce soit sur le financement des médias aussi. C'est tout un tas de questions qui sont en fait propres à n'importe quel média, que nous, auxquels on se confronte sur des nouvelles plateformes, mais les questions restent les mêmes. Et donc, on essaie d'hériter d'une vigilance typiquement sur cette dimension journalistique.
Et justement, Hugo, votre public est jeune, et vous dites qu'il y a une défiance de beaucoup de ces jeunes envers les médias traditionnels, et même le mot journaliste qui est devenu suspect. Comment est-ce que vous expliquez ce rejet, vous ?
Déjà sur ce dernier point, effectivement, le mot journaliste est devenu suspect pour certaines personnes. Évidemment pas toutes, mais et d'ailleurs pas que chez les jeunes. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui est bien plus large. On sait que c'est une des professions les plus détestées en France. Mais moi je le vois dans les dès que je dis que j'ai des journalistes dans l'équipe, j'ai parfois des commentaires qui disent mais des journalistes et qui prennent cet air un peu étonné en disant mais attention quoi, ne sois pas comme les autres, ne deviens pas journaliste, alors que pour moi c'est le métier le plus noble, j'ai toujours voulu faire ça, c'est très beau. Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a ce décalage, c'est un décalage déjà sur le format, ça c'est une première chose qui fait que déjà de base on est moins confronté à ces contenus-là. Ensuite, il y a une dimension, une explication parmi d'autres, c'est ce sentiment que derrière un média, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est une sorte de boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le journal Le Monde, par exemple. On nous dit Le Monde, ok? C'est le nom d'un journal. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est des journalistes? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi toute la journée? Et moi, je l'ai vu quand on a fait un reportage, il y a peut-être 2 ans maintenant, dans les coulisses du journal de France 2. Et donc, on a passé une journée dans les coulisses du journal à voir la conf de rédac le matin, les journalistes qui font leur sujet, qui posent leur voix et leur voix journalistique de JT qu'on connaît. Et quand j'ai posté cette vidéo, on a eu plein de réactions de gens qui disaient « Mais je pensais pas qu'il y avait autant de gens derrière un journal, autant de gens qui faisaient de l'information au quotidien. » Et donc voilà, je pense qu'il y a parfois un sentiment de boîte noire, qu'on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est une dimension intéressante. Et puis après aussi, des vraies questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement des médias et des vraies critiques adressées parfois aux médias sur leur financement, sur leur organisation, sur des pressions que peuvent recevoir dans certains médias de leurs propriétaires sur des journalistes ou autres. C'est aussi des questions légitimes qui peuvent mener à des vrais débats. Et tout ça mène à ça, je pense, aujourd'hui.
Vous êtes là pour faire parler les boîtes noires.
Mais avec une rédaction de 13 personnes, vous allez y avoir droit aussi, Hugo,
maintenant.
certitude.
Je pense qu'à partir du moment où, de toute façon, on parle d'actualité, ouais, qu'on fait ce travail journalistique, on se confronte à des critiques et c'est inévitable.
On parlait du public qui vous écoute. Est-ce que vous avez donné des données factuelles quant à savoir qui ils sont? Parce qu'on parle beaucoup de jeunes gens, mais vous le disiez tout à l'heure, on est quasiment assuré que ça peut toucher de nombreuses générations en réalité.
Complètement. Je pense que ce qui fait qu'on est beaucoup suivi par des jeunes, c'est notamment qu'on est beaucoup sur les réseaux sociaux où sont présents les jeunes. Et quand on fait des vidéos sur TikTok en ce moment tous les jours, on a 500, 600 000 abonnés sur TikTok. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes âgées qui sont sur TikTok et qui nous suivent. Donc, évidemment, la question du format et des plateformes joue beaucoup. Après, on a en gros un cœur de cible de aujourd'hui entre 18 et 24 ans. C'est plus de 50% de notre audience. On a beaucoup de 25-34 aussi, beaucoup de 13-17. Mais on a aussi de plus en plus des personnes plus âgées qui viennent nous suivre.
Comme nous, vous voulez dire.
Et, non, mais
je parlais plus âgées. Plus âgées. Enfin, mais je suis dans le même sac.
L'autre jour, je prenais un café pas loin de mes bureaux. Je tombe face à quelqu'un, une dame âgée, qui pourrait être ma grand-mère en termes d'âge, me fait un signe de la main. Et je ne comprends pas, je me dis, mais c'est pas ma grand-mère, je connais ma grand-mère, je sais que c'est pas elle.
C'est sûr.
Donc, qui c'est? Et je lui dis bonjour, et je fais, mais, qui êtes-vous? On se connaît? Ou... Elle dit, non, juste.
Une cougar.
Je voulais récupérer mon numéro, j'ai pas compris. Non, et elle me dit, je suis ce que vous faites, mon petit-fils m'a fait découvrir, et maintenant je regarde tout seul. Donc, ça fait plaisir de voir que ça peut toucher une audience plus large aussi.
Et donc, vous êtes heureux.
Ça fait plaisir.
Hugo, vous avez interviewé de nombreux politiques, et parmi eux, Emmanuel Macron, alors président de la République.
Je vous lis quelques retours que j'ai eu du coup sur Instagram. Morgan VRZ, c'est évidemment un pseudo, oui, qui dit « J'ai 20 ans, j'ai décidé de ne pas aller voter car je trouve qu'on n'est pas assez bien informé sur le rôle de l'Europe. » RJS3003 qui dit « Je trouve qu'il y a énormément de candidats et au final on ne s'y retrouve plus. » La campagne, elle a débuté très tardivement. Certains programmes aussi sont sortis tard et ça semble conduire à une abstention. Quel est votre regard sur tout ça?
Alors, moi, je veux bien entendre ça, mais c'est un peu paradoxal. Dire « c'est compliqué, on n'a pas été assez bien informé », le citoyen n'est pas passif.
Même pas une petite bataille d'anecdotes.
même pas. C'est pas vraiment la ligne éditoriale, en l'occurrence, de la chaîne.
Mais d'ailleurs, vous aviez confié que, je crois, c'était pas votre exercice préféré.
Le format d'interview, d'interview de personnalités politiques, je pense pas que ce soit mon format préféré. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas le format préféré de ceux qui nous suivent. Évidemment, à l'approche de la présidentielle, on va faire des interviews des personnalités politiques, des différents candidats. Et là, ce sera attendu parce que c'est la présidentielle. Mais faut bien voir qu'il y a, en tout cas auprès de ceux qui nous suivent, quand on parle de personnalités politiques, soit c'est une tête d'affiche, soit c'est Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Et dans ce cas, ça attire, ça intéresse. Et d'ailleurs, ces interviews-là sont très très suivies quand on les fait. Soit c'est des personnalités peut-être moins connues. Et ça, même des membres du gouvernement, ça parle pas forcément à un jeune qui a la vingtaine et qui est étudiant en parallèle et qui s'informe au quotidien. Donc c'est intéressant de voir que c'est pas non plus le contenu qui intéresse le plus ceux qui nous suivent, mais ça reste, je pense, un contenu important en matière d'information, d'aller faire ce travail d'interview, et on le fera pendant la présidentielle.
Hugo décrypte. Ne bougez pas, on n'en a pas fini avec vous. Petit pop break dans ce pop podcast. C'est l'heure des pop news spéciales podcast, évidemment.
Les grands de la pop culture s'amusent aussi dans les podcasts et même qu'il s'y tient des propos aussi drôles qu'intelligents. Ricky Gervais a un ami, Sam Harris, il est philosophe et spécialiste des neurosciences et Ricky Gervais lui téléphone souvent pour l'assaillir de ses interrogations.
What are dreams for? What noise does a monster make? When does a baby start thinking? Why do you think we fear death? If there's no afterlife, morality, what's the point, Sam? What's the point?
Ces échanges donnent un drôle de podcast nommé Absolutely Mental que je vous recommande chaudement, un programme qui cartonne alors même qu'il est payant, à retrouver sur absolutelymental.com.
Avis aux fans de The Office version US, un podcast est intégralement consacré à la série The Office Deep Dive with Brian Baumgartner, un programme dans lequel les différents protagonistes de la série viennent parler, et quelques fans aussi. Ainsi retrouve-t-on dans un des épisodes la rencontre au sommet entre Steve Carell et Billie Eilish, et apparemment l'admiration est mutuelle.
Oh my goodness!
Hey, first of all, congratulations!
Oh my god! Oh my. Thank
That's
you.
Insane.
This is crazy.
La suite, c'est dans The Office Deep Dive with Brian Baumgartner.
Questlove n'est pas que le batteur virtuose des Roots, c'est le réalisateur de l'excellent documentaire Summer of Soul, disponible sur Disney+. Il est aussi l'animateur d'un podcast, forcément musical, dans lequel des artistes viennent se raconter. Et dans le dernier épisode, c'est Bobby McFerrin qui vient papoter, l'occasion pour Questlove de remixer à la bouche son propre générique.
Supreme, Supreme Roll Call. Supreme, Supreme Roll Call.
My name is Fonte. Pas les jingles chantés d'Antoine Decaux. Non, la suite, c'est dans Questlove Supreme.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine
Decaux. C'est moi.
Non, c'est pas Questlove, non.
Non, c'est pas Questlove.
Non, c'est pas Questlove.
Ça s'en approchait un petit peu, la quête de la Hammer.
Bon,
Hugo décrypte, vous restez avec nous dans la suite de Pop Pop Podcast. Nous continuons de décrypter les podcasts. Ce sera juste après un morceau signé d'un autre podcasteur, Joey Starr. Ici avec Cool Chain Époque NTM. Le morceau, c'est Tout n'est pas si facile.
Il y a plus de 10 ans, déjà le hip-hop en France faisait ses premiers pas. Il n'y avait pas de règles, pas de loi, non, surtout pas de contrat, pas de problème entre toi et moi. Tout était clair, du but à la manière dont tout devait se faire. Naïf novice mais tellement fier d'évoluer dans un système parallèle où les valeurs de base étaient pêle-mêle. Peace, unity, love and having fun. Le hip-hop n'a jamais eu besoin de gun ni de gang, de toys ni de bang, mais plus tôt de la foi de ceux qui en défendent la mémoire et l'éthique, les valeurs essentielles, celles qui créent encore l'étincelle lorsque je me rappelle des premières heures du terrain vague de la chapelle. À l'époque, les héros s'appelaient actuels. Lucien dynastique, Colé, Meillot, big up pour être resté haut. Si longtemps tout en haut, de l'affiche aussi haut, haut que le flow. De mémo, de mémo, de mémo. Il en aura fallu du boulot, des heures et des heures et des jours et des jours et des années même. Pour que le hip-hop tienne, tout ne fut pas si facile pour le suprême.
Donc l'on se doit d'être habile, car l'amitié mais aussi la sincérité, ouais, sont les choses qui à tout moment peuvent déflagrer. C'est le côté obscur que cache notre nature. Ouais, j'en ai l'exemple, ça m'a foutu une trompe qui m'a ouvert les yeux sur ce sujet bien épineux.
Tant mieux.
Croyant que la galère nous ralliait sous une bannière, croyant que la galère faisait de nous des frères. Hier c'était le cas, pas si longtemps, dis-moi.
Non, 3-4 ans maximum, plus il y a eu mal donné.
À savoir la façon dont a évolué notre histoire et au combien l'unité même en pensée est illusoire.
C'est bon,
laissez tomber les mouchoirs.
C'est ok,
on est toujours là pour foutre la foire. Effectif diminué et un obstacle déjà sauté
qui nous a à peine freiné. Mais sachez que tout va se faire.
Suprême NTM, tout n'est pas si facile. Oh non. Et cet extrait de l'album Paris sous les bombes. Vous écoutez Pop Pop Podcast, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon...
I'm on vacation every single day.
Vacation de 30 Heads. Ce hit TikTok, Hugo, c'est ce qui vous évoque la pop culture et vous allez m'expliquer pourquoi.
Ouais, je trouve ça intéressant parce que c'est un son qui a émergé grâce à TikTok, donc plateforme très connue des jeunes aujourd'hui et des moins jeunes aussi de plus en plus, sur laquelle on va avoir tout un tas de contenus de divertissement. Et ce que je trouve fascinant, c'est que ça fait partie de ces groupes qui ont émergé, de ces sons qui ont émergé grâce à TikTok, mais une grande partie des gens ne connaissent que quelques secondes de cette musique, parce que la chorégraphie ou le challenge de cette musique sur TikTok, c'est 10-15 secondes, toujours du même extrait de la musique, et du coup c'est parfois des musiques qui sont un peu inconnues, et moi je suis sur TikTok, je tombe sur une musique, je me dis, ah j'aime bien ces 10-15 secondes, je vais essayer de voir un peu plus sur cette musique, et là soit on découvre que toute la musique est bien, soit on déteste la suite de la musique, mais ça donne parfois des résultats assez étonnants.
Et au passage vous faites très bien la chorégraphie, bravo. Dans le clip on retrouve Denis Askins, alias Mr. Belding, Singh, le proviseur de la série Sauvé par le Gong, qui joue son propre rôle. C'est une série mythique du début des années 90. Ça vous parle, ça?
Ça me parle pas trop.
Bah
et pendant ce
et bim
son TikTokien, vient de nous rejoindre Thomas Biassi, plus connu dans le monde des podcasts sous le nom de Cosmo Flash. Bonjour Thomas. Je vous appelle Thomas ou Cosmo Flash?
Bonjour Antoine. Bah, plutôt Thomas le jour et Cosmo Flash la nuit. Hein.
Et vous venez sans cap, là, comme ça.
Ah non, on est vendredi.
Mais avec le slip rouge. Bon, Cosmo Flash, nous vous enfermons toute la semaine ici à Radio France pour écouter tout, mais alors absolument tous les podcasts internationaux pour venir ensuite nous livrer chaque vendredi le meilleur. Quel est votre coup de cœur cette semaine?
Cette semaine, c'était grand ménage de rentrée, donc j'en ai profité pour tout nettoyer chez moi en écoutant un super podcast de la BBC, The Lazarus Heist.
Merci Thomas. Un podcast que vous avez donc vraiment écouté en faisant le ménage ou c'est une image?
Non, j'avoue, c'est une image et j'ai tout de même tout récuré dans le studio où m'avait enfermé Antoine. Donc le casse Lazarus en français, c'est une histoire qui commence il y a 7 ans, juste après la cyberattaque spectaculaire dont est victime le studio de cinéma Sony Pictures à Hollywood. Mm-hmm. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement, Antoine?
Pas du tout.
Et vous, Hugo?
Non plus.
Ah bon, bah voilà.
Moi, oui.
Charline. Évidemment, Charline s'en souvient.
Et ben voilà, ça c'est un événement qui a créé une vraie hystérie aux États-Unis, à raison, puisque cette attaque numérique provoque la fuite dans la nature de milliers d'emails confidentiels et surtout les données personnelles des 4000 salariés du studio. Mm-hmm. C'est un acte de piraterie informatique d'une dimension encore rarement vue à l'époque et qui survient étrangement juste avant le lancement d'un film qui fait déjà parler de lui à l'époque, The Interview. Alors pour rappel, The Interview, c'est le film où les comédiens Seth Rogen et James Franco interprètent deux stars de télévision qui ont pour mission d'assassiner Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen, sous prétexte de réaliser une interview.
Vous voulez qu'on tue le chef de la Corée du Nord?
C'est ça.
Quoi?
Allez à toi, Corée du Nord!
Avant l'interview, vous serrez la main de Kim avec une dose mortelle de poison. Il est crucial que vous ne touchiez rien d'autre.
Aaron! Aaron!
Je crois qu'on a 0% de chance que ça marche.
Autant vous dire que le pitch du film va beaucoup plus aux dirigeants de Pyongyang. Et résultat, le régime est vite accusé par les États-Unis d'avoir commandité cette cyberattaque. Et d'ailleurs, la diffusion du film au cinéma à l'époque est carrément annulée à cause des menaces proférées par les pirates. Seth Rogen et James Franco devront être protégés par des gardes du corps 24 heures sur 24. Une protection qui s'étend à plus en plus de gens qui ont travaillé sur le film, sauf au scénariste Dan Sterling qui nous raconte.
I called my lawyer and he hooked me up with this Israeli security agent and he's and I'm not going to imitate an Israeli accent, but he said basically, don't worry, you're the writer, nobody cares about the writer, you're not important, you don't matter, you're fine.
Dan Sterling donc qui appelle son avocat et qui le met en relation avec un agent du Mossad, hein, comme tout le monde. Et celui-ci lui explique qu'il n'est pas le scénariste, qu'il n'est que le scénariste. Et que personne ne le connaît, donc bah, il risque rien. Hein.
Bon, en fait, tout le monde s'en fout du scénariste.
Ouais, on dirait bien, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. Les deux premiers épisodes reviennent vraiment en détail hein, sur cette attaque totalement hors norme dans l'histoire de l'informatique. C'est l'un des actes de cyberguerre les plus marquants hein, de ces dernières 10 dernières années.
Et que pouvez-vous nous en dire, mon cher Cosmo Flash? C'est sans divulgâcher.
Effectivement, je vais pas tout vous raconter, Antoine, mais en 10 épisodes, The Lazarus Heist raconte méthodiquement les proportions complètement folles hein, que prend cette histoire. On y entend un fugitif nord-coréen qui envoie des copies du film sur clé USB attachées à des ballons à l'hélium au-dessus de la zone démilitarisée. Mmh. Petite parenthèse, j'explique rapidement, c'est une activité qu'on peut faire que au printemps, quand les vents remontent du sud vers le nord, hein, c'est au cas où ça vous amuse. Puis surtout, il y a cet agent du FBI qui nous raconte comment il s'est infiltré dans un gang de criminels qui vendait des cigarettes de contrebande, un faux Viagra qui réveillerait les morts et des faux billets plus vrais que nature, tout fabriqué en Corée du Nord.
Attendez, Cosmo Flash, qu'est-ce que c'est un Viagra qui réveille les morts? C'est pour un ami. Hein.
Ouais, alors le FBI a fait tester hein, ces faux Viagra par Sizer. Mmh. Et autant vous dire que je ne conseille pas trop à votre ami d'en prendre.
Ah, hein. Très bien, j'y dirais.
Et ça va même encore plus loin. Et là, je laisse le journaliste de la BBC, Geoff White, nous raconter.
Then one day, they hit him with a jaw-dropping proposal. The gang wanted Bob to set up a crystal meth laboratory in North Korea.
Et voilà, dans certains extraits, on apprend donc qu'un jour, en plus de la contrebande, on propose à l'agent infiltré un nouveau job complètement fou, installer un laboratoire de meth en Corée du Nord. Donc voilà, hacker, braqueur, agent double, agent infiltré, tous les éléments sont là, tellement que ce podcast pourrait être écrit par John Le Carré. Toute l'enquête est empreinte de personnages mystérieux, aux motivations douteuses, aux objectifs jamais très clairs. Mmh. Et le mystère est tellement bien manié par la série que l'on comprend rapidement que le piratage de Sony Pictures n'était qu'un coup d'essai pour ce groupe Lazarus. Et en effet, ils sont les auteurs d'une attaque encore plus impressionnante, le cyberbraquage de la banque du Bangladesh en février 2016. Les pirates font disparaître près d'un milliard de dollars des comptes sans que personne, ou presque, ne s'en aperçoive. Pour la suite de cette histoire, je vous recommande vraiment d'écouter ce podcast tout en suspense, parfaitement raconté par deux journalistes du prestigieux BBC World Service, avec des interviews, des témoignages totalement inédits.
C'est donc bien mieux que le film d'interview.
Ah ouais, c'est beaucoup mieux.
Merci Thomas Biassi, c'était le baptême du feu aujourd'hui.
Voilà,
merci,
ça.
Vous en êtes très très bien sorti, alias bien sûr Cosmo Flash. Hugo, est-ce que Cosmo Flash vous a convaincu de découvrir ce podcast?
Ça donne vraiment envie, et du coup je me souviens de ce piratage dont on avait entendu parler il y a quelques années. Là, ça rentre envie de, donne envie de se donner dans... Bon, j'arrive pas à parler, c'est pas grave. Allez, on va arrêter cette phrase.
Essayez de dire podcast.
Podcast.
Bah,
j'ai retrouvé mon tout, voilà, amené le coup
sur un seul pied avec un bras tendu maintenant. Alors, impossible de ne pas terminer ce premier numéro de cette émission spéciale sans un morceau de musique. Je vous propose donc Skate, le nouveau Silk Sonic, d'un groupe formé par Bruno Mars et Anderson Paak. Skate, Silk Sonic, c'est le dernier morceau de ce premier numéro de Popopop Podcast. Hugo, je profite de cette émission spéciale pour lancer une nouvelle séquence. Jean-Pierre Foucault avait son coup de fil à un ami, et bien moi j'ai le podcast que l'on conseille à un ami, ça s'appelle le podcast. Évidemment, jingle s'il vous plaît.
Donc moi j'ai un jingle chanté à la bouche et là on a un truc de super prod quoi.
Bah oui, pourquoi pas.
Okay. Non, mais je vois le,
c'est ça
le
aussi
genre.
L'aventure radiophonique. Ouais, ouais. Nous sommes entre amis, Hugo Décrypte, à vous de nous conseiller un podcast, enfin un podcast.
C'est excellent.
C'est fort, c'est fort.
Allez-y.
Alors je vais vous recommander moi le Floodcast, F-L-2-O-D-Cast après. C'est un podcast qui est animé notamment par Flaubert, Florent Bernard et Adrien Méniel. Et c'est un podcast où chaque... c'est même pas... C'est quoi? C'est mensuel, je crois. C'est parfois un peu... voilà, mensuel, En gros, chaque semaine, et c'est une discussion d'une bande de potes, la plupart qui viennent de l'univers d'Internet, qui soient youtubeurs ou autres, mais qui sont de ce domaine-là, et qui viennent parler de plein de sujets différents, avec un ton très libre. Il y a quelques petites rubriques de jeux ou autres au milieu. Ça dure environ 2 heures par émission, donc... Moi, je l'écoute en plusieurs fois parce que rarement j'ai 2 heures d'affilée comme ça pour écouter un podcast. Mais c'est très drôle. On apprend quelque chose. Il y a souvent des petites recommandations aussi. C'est très très drôle à écouter et j'aime beaucoup. Enfin voilà, grosse recommandation.
Podcast. Attendez, j'ai un spécialiste sous la main. Cosmo Flash.
Ouais. C'est vraiment un immanquable pour faire la vaisselle. C'est parfait.
Un immanquable pour faire la vaisselle.
Il est très tâche ménagère quand il fait des podcasts. Je vois. Thomas,
chez moi, c'est super propre.
Ouais. Écoutez, il y a du travail dans ce studio. Je vais vous le laisser. Merci. Bon, merci à tous. Merci. Hugo Décrypte, votre podcast Les Actus du Jour est à retrouver sur toutes les plateformes et c'est plus que recommandé pour s'informer, jeunes amis. Merci, Charline.
Vous pouvez faire un jingle pour me dire au revoir ?
Bien sûr.
C'est génial.
Et merci à toute l'équipe de Pop Pop et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui. Et rendez-vous vendredi prochain, mon cher Cosmo Flash. Lundi, dans Pop Pop, Raphaël Personnaz vient nous parler de l'opéra, sa nouvelle série. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop. Et je rappelle que cette émission spéciale podcast est à retrouver, eh bien, en podcast.